Trois invités, un inflexible athée, des corps encagés, des pics, des incisions, des objets méchants, des protocoles et du théâtre cruel. Sade et Giacometti, Sade par Giacometti avec Gérard Massé, Stéphanie Genant et Christian Allendette.
La compagnie des poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h.
Je défends absolument que mon corps soit ouvert sous quelque prétexte que ce puisse être. Je demande, avec la plus vive instance, qu'il soit gardé 48 heures dans la chambre où je décéderai, placé dans une bière de bois qui ne sera clouée qu'au bout des 48 heures prescrites ci-dessus, à l'expiration desquelles la dite bière sera clouée. Pendant cet intervalle, il sera envoyé un exprès au sieur Lenormand, marchand de bois, boulevard de l'Égalité numéro 120 à Versailles, pour le prier de venir lui-même, suivi d'une charrette, chercher mon corps, pour être transféré sous son escorte et dans la dite charrette, au bois de Mater de la Malmaison, commune de Mancé, près d'Épernon, où je veux qu'il soit placé, sans aucune espèce de cérémonie, dans le premier taillis fourré qui se trouve à droite dans le dit bois, en y entrant du côté de l'ancien château, par la grande allée qui le partage. La fosse pratiquée dans ce taillis sera ouverte par le fermier de la Malmaison sous l'inspection de M. Lenormand qui ne quittera mon corps qu'après l'avoir placé dans la dite fosse. Il pourra se faire accompagner dans cette cérémonie, s'il le veut, par ceux de mes parents ou amis qui, sans aucune espèce d'appareil, auront bien voulu me donner cette dernière marque d'attachement. La fosse, une fois recouverte, il sera semé dessus des glands, afin que par la suite, le terrain de la dite fosse, se trouvant regarni, et le taillis se retrouvant fourré comme il l'était auparavant, les traces de ma tombe disparaissent de dessus la surface de la terre, comme je me flatte que ma mémoire s'effacera de l'esprit des hommes, excepté néanmoins du petit nombre de ceux qui ont bien voulu m'aimer jusqu'au dernier moment et dont j'emporte un bien doux souvenir au tombeau. Fait à Charenton-Saint-Maurice, en état de raison et de santé, ce 30 janvier 1806.
En état de raison et de santé, donc le testament du marquis de Sade, rédigé donc 8 ans avant sa disparition, et pour le dire, la voix bien déclamante, d'André Breton en 1950, de quoi tenir en une fois, ce dont il sera question avec vous aujourd'hui, Gérard Massé, Christian Andlet et Stéphanie Genant, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
À tous les trois. Sade, côté Fondation Giacometti à Paris, le temps d'une exposition où Giacometti en surréaliste est lecteur plus ou moins masqué du marquis durant les 5 petites années de son compagnonnage surréaliste. Et puis Sade, côté essai avec vous, Gérard Massé, qui signait « Et je vous offre le néant » aux éditions Gallimard, soit le récit de votre lecture de Sade, titre emprunté ou ajusté ou souvenu du fameux français, encore un effort si vous voulez être républicain, du dit marquis, un titre qui annonce d'emblée ce que Sade vous dit, Gérard Massé.
Oui, parce qu'il nous dit d'abord à partir du testament que André Breton lisait à l'instant et qu'on a souvent cité à juste titre. Parce que d'abord, c'est un morceau de prose tout à fait extraordinaire. Et puis, c'est quand même un exercice de l'imagination aussi. Je me permets de dire que c'est comme un rêve éveillé, l'écriture d'un testament. Parce qu'au moment où on le fait, on sait qu'on ne sera plus là. On voudrait quand même toujours diriger la manœuvre. Influer avec une grande précision sur des événements qui ne nous regardent plus. Il y a donc dans tout testament quelque chose, vous voyez, d'une espèce de prolongation du temps de la vie, au moins un peu. Bon. Alors, celui de Sade a quelque chose de particulier, c'est que d'abord, il est écrit magnifiquement, enfin moi je trouve, qu'il prévoit tout dans le moindre détail.
Ce qui n'étonnera guère.
Absolument. Il y avait un côté précis et même maniaque chez Sade. Et donc, il y a chez Sade, et c'est le testament le dit, un athéisme absolument radical. Voilà. Plus radical que chez aucun autre, plus radical même que chez les philosophes des Lumières, sauf ceux qui se proclament réellement matérialistes, comme la Métrie, la Harpe, etc. Mais il est beaucoup plus fasciné par le rien, et sûr qu'il n'y a rien après, que Voltaire, par exemple, qui ménage un peu la chèvre et le chou. Et donc, il y a quelque chose de radical. Et la question qui suit, c'est à partir du moment où on n'est plus coiffé par une instance suprême, à partir du moment où la loi morale n'est plus garantie que par nous-mêmes, d'une certaine façon, enfin nous-mêmes, au collectif, pluriel, à ce moment-là, est-ce que tout à coup, on peut se permettre tout ce qu'on veut? Est-ce qu'on n'obéit plus qu'au désir? Est-ce qu'on n'obéit plus qu'à même la pulsion? Alors, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir que chez Sade, pour lutter contre ça, parce qu'il sait bien que c'est pas possible de vivre collectivement avec que des individus qui se jetteraient à la figure ce qu'ils veulent, et qui donc agiraient avec une sorte de violence et pratiqueraient la coercition en permanence. Or, chez Sade, malgré sa réputation, ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qui vient contrebalancer ça? Ben, c'est des règles. Voilà. Or, Sade est un inventeur de règles absolument extraordinaire, qui, de ce point de vue, précède Fourier.
On va y revenir, bien sûr. Hein, ce testament donc du 30 janvier de cet incroyant, hein, de cet athée, c'est celui par lequel vous ouvrez votre texte, Gérard Masset. Hein, donc, alors c'est vrai que c'est assez étonnant de voir que, en fait, à écouter ce testament, on a le sentiment presque qu'il veut faire disparaître son corps comme le ferait un criminel d'un cadavre, qui voudrait se débarrasser de son
forfait.
Oui,
quelque chose d'un peu fantastique. Dans cet écrit.
Oui, il faut dire d'ailleurs que ça n'aura pas lieu, hein, bien
non,
sûr, hein, tout
non.
ce que tout ce qu'il évoque et tout ce qu'il décrit. Et puis, ça n'est évidemment pas la moindre des contradictions de Sade de ne pas vouloir laisser de traces tout en écrivant des milliers de pages. Stéphanie Genant, un monde sans Dieu, c'est ce que veut d'abord décrire Sade, hein, à l'écoute en tout cas de ce testament.
Alors, je ne serais pas tout à fait d'accord. Je nuancerais un tout petit peu ce que Gérard Massé vient de dire, puisque si Sade était... C'est vrai qu'il... Je pense qu'il se rêve plus en athée qu'il ne l'est... Totalement, pour la simple et bonne raison que, par exemple, l'ensemble de ses personnages et de son œuvre passent leur temps à blasphémer et à rappeler la nécessité d'oublier l'existence de Dieu. Donc, quelqu'un qui se bat autant contre l'existence de Dieu essaye plutôt de la conjurer. Vous voyez qu'il a entériné l'idée qu'il n'y avait pas l'existence de Dieu. Je pense que Sade a essayé d'être athée. Je suis pas convaincue je suis pas sûre qu'il y soit arrivé. Par contre, ce testament nous montre effectivement, ça je suis tout à fait d'accord, quelqu'un qui consent au néant, vraiment, avec tout ce que ça peut avoir d'angoissant, et la question aussi de vie que pose ce néant. Effectivement, Gérard Massé a raison, je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire s'il n'y a plus de transcendance, si nous sommes, nous, les seuls maîtres de notre existence, les seuls capables de nous donner des valeurs? Et ça, c'est quelque chose de très courageux, aujourd'hui encore. Hein. Il est beaucoup plus confortable de se dire qu'il y a quelqu'un qui décide à notre place, qui prend les décisions de notre vie, et surtout nous juge, que de se dire que c'est nous les acteurs. Donc c'est une vraie liberté aussi que le néant confère à Sade, mais une liberté un peu effrayante par son exigence.
Alors effectivement la critique ou la nuance que vous apportez Stéphanie Genant, Gérard Massé, je crois même vous l'évoquez dans votre texte,
oui,
et vous l'évacuez par ailleurs.
Oui, c'est un argument qu'on a beaucoup entendu en effet, qui est valide. Simplement, nous ne sommes pas au temps de Sade dans la situation où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a un combat à mener. Voilà, un grand combat, comme dirait Henri Michaud. Vous voyez, il y a quand même un grand schmurz. Il faut l'atteindre, il faut le blesser, il faut le mettre en pièces, parce que la vie entière est réglée fin 18e par l'Église, ses cérémonies, ses croyances, son autorité. Et la peur qu'elle instille pour que chacun obéisse. Mais, bon, alors, j'essaie, enfin, dans ce livre, si vous voulez, moi je suis pas spécialiste de ça, tout simplement j'ai essayé de le lire. En 2 mois, j'ai à peu près tout lu ou relu, parce que j'en avais quand même lu avant. Et c'est comme un récit de voyage. Voilà, je vais chez Sade et voilà, qu'est-ce que je découvre, qu'est-ce qui se passe, vous voyez, comme une expérience aussi. Et j'ai voulu faire une sorte de présentation de Sade aussi simple que possible, pas, si je dis modeste, on ne me croira pas. Mais tout de même avec assez de simplicité pour que ce soit comme un Sade par lui-même, pour reprendre le titre de cette collection qui était autrefois aux éditions du Seuil et qui a été une magnifique collection d'ailleurs. Donc voilà, alors, cet argument, oui, je l'entends tout à fait. Je préfère, moi, entendre ce que dit Sade lui-même.
Vous rêvez la même chose que lui, au fond. Oui. Alors, Gérard Massé, récit de voyage, mais pas seulement, c'est aussi une adresse. Qu'est-ce que c'est que ce lecteur de bonne foi auquel vous vous adressez par ce livre?
Mais mon pari, c'est un peu de lire Sade en n'abdiquant pas la raison. C'est-à-dire en n'en faisant pas je ne sais quel diable qu'il faudrait aborder avec circonspection, avec crainte ou avec fascination. Ce qui, tout à coup, en fait quelqu'un qui serait presque un monstre au sens vrai du terme, et donc presque hors de l'humanité. Alors, ce qui m'intéresse chez Sade, précisément, c'est que rien n'échappe à l'humanité. Comme on le disait à l'instant, et tous les deux, là, chez Sade, l'homme est responsable de tout. Il ne peut pas se réfugier vers une volonté qui ne serait pas la sienne, et il ne peut pas se réfugier derrière je ne sais quel destin qui serait écrit d'avance. Voilà, tout lui appartient, y compris les actions les plus noires. Voilà, l'homme est tout à coup seul responsable. En effet, c'est lourd à porter.
Alors, puisqu'on en est au rayon commencement, Gérard Massé, Sade et de ses lectures, dont la première fois fait date, hein, en général, lecture de jeunesse, souvent c'est votre cas. Vous êtes en première, donc vous êtes tout jeune homme, vous lisez Sade dans la salle à manger de l'appartement familial. Sans avoir besoin de transgresser quoi que ce soit, dites-vous, ni choquer personne, un auteur parmi tant d'autres. Est-ce que vous vous souvenez de cette première lecture, de cette première impression? Comment est-ce que vous commencez par vous débrouiller de Sade?
J'avais emprunté les bibliothèques municipales dans la ville de banlieue où je vivais avec mes parents. J'avais emprunté un volume des œuvres et je me souviens très précisément, et c'est ça qui m'a marqué, du dialogue entre un prêtre et un moribond.
C'est par là que vous commencez. Oui, ce texte écrit en 1782.
C'est par là que ça commence aussi pratiquement.
À Vincennes. Ouais. Oui.
Mais ça, je ne le savais pas à l'époque. Parce que j'avais la manie, étant donné que mes parents n'avaient pas de bibliothèque, mon père était ouvrier, il fallait que je me ferais un chemin dans tous ces livres. Et bien. Alors, du même coup, je n'avais pas de barrière, il n'y avait pas des gens qui surveillaient mes lectures. Et dès que j'avais un livre un peu apparemment sérieux entre les mains, j'avais la paix. Alors ça, c'était très très commode, très pratique. Et puis en même temps, je pouvais un peu fureter partout. Alors comment je faisais? Vous savez, pas pour Sade, mais pour le reste, je prenais un peu les manuels scolaires. Seulement, j'allais moi voir les œuvres. Je ne me contentais pas d'extraits. Alors c'est ainsi que j'ai lu Diderot, sinon en entier, du moins en grande partie, et tout particulièrement Les Bijoux indiscrets. Hein. Voilà. Alors il y a aussi que à 16 ans là en l'occurrence, on a un peu de curiosité pour le sexe, pour les femmes si c'est ça qui nous intéresse, pour une réalité qui n'est pas tout à fait la nôtre et qui voilà dont on voudrait bien découvrir ce qu'elle cache.
Vous dites que vous y êtes revenu périodiquement sans bien savoir ce qui vous retenait en lui. Est-ce que vous le savez aujourd'hui?
Un peu mieux, oui. Oui, un peu mieux depuis que j'en ai lu abondamment et surtout presque d'une traite. Ce qui me retient, c'est ce que je disais tout à l'heure d'abord, c'est-à-dire cet homme livré à lui-même, façon de régler ce qui, et c'est pas facile, conditionne la liberté de l'autre, c'est-à-dire le problème du désir. Et puis, ce que j'ai découvert chez Sade, à cette occasion, par ma relecture, c'est vraiment le côté... Alors, philosophique, il est vrai qu'il a sous-titré Aline et Valcourt, roman philosophique. Et ça n'est pas usurpé. C'est-à-dire que Sade a des idées et il est très informé. Il réfléchit beaucoup sur toutes les expériences qui ont eu lieu dans le monde qu'on a découvert depuis les grands voyages, Cook, Bougainville, etc., après Colomb. Et il est très, très conscient de toutes ses expériences humaines et chez lui, ça c'est tout à fait remarquable, il n'y a pratiquement pas de hiérarchie entre ses expériences ou ses organisations humaines. Dans Aline et Valcourt, par exemple, c'est pas si connu que ça, parce que je m'aperçois que quand on parle de Sade, beaucoup de gens ont le nom en tête, et puis le sadisme a fait beaucoup de mal, au fond. Mais on lut peu l'œuvre, ou un livre, Justine, et puis on s'est arrêté là. Bon, or, il y a une œuvre complète et qui a une cohérence, des contradictions, parce que Sade est un romancier. Il a des personnages, et donc il ne dit pas toujours la même chose. Faut jamais oublier ça.
Beaucoup c'est de contradictions, œuvre... quelques ruses aussi.
Oui, c'est une œuvre littéraire. Voilà. Une œuvre littéraire et un romancier tout à fait conscient de son métier. Il a écrit, rappelons-le au passage, idées sur les romans. Donc j'en étais au fond à Sade, qui pratiquement devient un peu anthropologue. Je crois qu'on peut prononcer le mot. Et par exemple, dans Aline et Valcourt, je ne vais pas raconter le roman, et qui d'ailleurs ressemble à tout ce qu'on fait au XVIIIe siècle, ou à peu près au début. Mais il emmène ses personnages dans le sud de l'Afrique, chez les Cafres. Les Cafres et les Hottentots, j'ai lu des récits de fin 18e sur ces régions, c'est tout à fait passionnant et on voit que Sade est très bien informé. Puis après, il emmène les mêmes personnages jusqu'à Haut-Tahiti, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire donc dans le Pacifique. Et il est remarquable qu'il mette en place à ce moment-là deux choses qui vont structurer l'imaginaire européen à propos de civilisations lointaines. C'est-à-dire l'espèce de sauvagerie de l'Afrique, en tout cas de cruauté, et puis le côté utopie du bonheur dans le Pacifique. Ben, tout ça, c'est chez Sade. Il était très, je répète, il était extrêmement informé. Une de ses bibles, si je puis dire, à propos de Sade, c'était un ouvrage d'un certain Desmeuniers qui compare les mœurs et les coutumes des différents peuples sur la Terre.
Christian Allendette, Stéphanie Genant, alors on l'a entendu, hein, je précise Stéphanie Genant, que vous êtes avec nous par téléphone depuis l'université de Bourgogne. Est-ce qu'il y a eu un théâtre particulier, un théâtre précis à vos premières lectures de Sade? Peut-être Stéphanie Genant.
Oui. Moi j'ai lu d'abord Sade pour ma thèse. Moi c'était vraiment d'abord une lecture académique et j'avoue que la première lecture a été pour moi très pénible. Et dans mon cas, il a fallu beaucoup de temps, je dirais presque 15 ans, pour que j'y revienne en y voyant un peu plus clair. C'était donc il y a 5 ans à peu près, où là j'ai réussi à comprendre, effectivement à surmonter une certaine agression que le texte provoque de prime abord sur le lecteur, et a fortiori, m'a-t-on dit à l'époque, sur la lectrice, hein, puisqu'effectivement les femmes ont une place assez particulière, même s'il est encore, c'est pas forcément ce qu'on nous explique d'emblée quand on lit Sade, malheureusement. Donc du coup, moi, quand je fais cours sur lui, là, à mes étudiants, je leur donne des clés qui facilitent l'entrée dans ce corpus, qui est pas du tout ce que nous, on nous disait il y a quelques 20 ans. Donc en y revenant un peu plus tard et en comprenant mieux effectivement la finalité anthropologique qui est la sienne, et puis parce que l'âge fait qu'on y voit plus clair pour le coup, je pense, avec le temps, c'est un corpus qu'il faut pas lire trop jeune, moi je pense. Il faut en tout cas avoir une certaine idée de la vie. D'ailleurs il dit lui-même ça, qu'on comprend l'homme quand on a souffert et quand on a voyagé. Il prend ces deux exemples, c'est-à-dire quand on a vécu en gros des expériences qui nous sortent de notre zone de confort, on pourrait dire comme ça. Et je pense que c'est vrai que quand on a 15 ans, bon, on peut bien sûr le lire, mais on comprend pas forcément tout ce qu'il y a. Il faut avoir un peu plus de vécu, quoi. Et donc voilà, aujourd'hui j'arrive à voir, effectivement, je suis d'accord tout à fait avec Gérard Massé, la richesse de cette œuvre, la complexité et l'exigence aussi de sa pensée, du regard sur l'homme. Mais bon, pour moi, il a fallu un certain temps. Voilà.
Où je vous approuve, madame. C'est que, par exemple, les 120 journées de Sodome sont un récit épouvantable, et de plus en plus, et vers la fin, j'ai failli abandonner mon livre qui était en cours, parce que j'ai écrit pratiquement au fur et à mesure que je lisais. Et après les 120 journées, là, j'ai failli arrêter. Heureusement, je ne l'ai pas fait. Tout de même.
Mais quand on comprend le sens du projet, les 120 journées se lisent de manière beaucoup plus neutre, en fait. Oui. Mais ça demande un travail sur soi qui va pas comme une évidence quand on est étudiant, quand on peut lire ce texte un peu jeune. C'est pour ça qu'il faut accompagner, à mon avis, donner des outils pour faciliter l'entrée dans ce corpus.
Tout à fait. Et quand vous parlez des femmes, ça me permet d'ajouter que chez Sade, et pas seulement les femmes évidemment, tout le monde a droit au plaisir. Ça, c'est une, oui, c'est une chose tout à fait remarquable. C'est-à-dire les enfants, les cardinaux, les vieillards, il n'y a pas non plus de canon physique. Voilà, tout le monde peut avoir, tout le monde doit avoir une sexualité et tout le monde peut avoir du plaisir. Il va même jusqu'à dire qu'à un certain moment, que l'adultère peut être pratiqué par les femmes autant que par les hommes, et que tout ça peut être réciproque. Ce qui est quand même une pensée à l'époque où il écrit, tout à fait iconoclaste.
Alors, sans vouloir me solitaire. Sans vouloir me tromper, oui, de lunettes ni de faire d'anachronisme, mmh, quoi, c'est, il est quand même difficile, enfin voire abusif, de parler de consentement.
Ah oui, tout à fait. C'est ce que je dis depuis le début. Le problème, il est là. Voilà. Alors.
Oui, mais personne parle de consentement au XVIIIe siècle. Non. Vous voulez, c'est une notion pour le coup qui qu'on peut, non, pas.
C'est bien pour ça que je parle de lunettes.
Ouais, voilà. Ça n'a pas de. Enfin, franchement, personne ne consent. Mais même les épouses légitimes. Enfin, c'est un concept qui n'existe pas dans une société autoritaire, despotique, hein, quand même globalement, qu'est la société d'Ancien Régime. Donc, personne ne demande à qui que ce soit s'il consent à avoir une relation sexuelle. Ça, ça se fait pas comme ça. Malheureusement, mais bon, voilà.
Oui, enfin, pas tout à fait, parce que ça lui a quand même posé des problèmes avec la justice. Donc, c'est que ça n'était pas. Enfin, oui, c'est que ça posait problème, ça posait question quand même.
Mais le fait que. Enfin, l'affaire d'Arcueil et les emprisonnements de Sade ne viennent pas d'une absence de consentement ou quoi que ce soit. Ce sont, en fait. Comment dire, il est accusé de. Non pas d'avoir abusé d'une prostituée, parce qu'en l'occurrence, c'était assez courant et là-dessus, il est tout à fait conforme aux mœurs de l'époque. Non, c'est d'avoir pratiqué avec elle des choses qui sont assimilées à de la cruauté. Or, la cruauté relève de la justice d'Ancien Régime, ce dont ne relève pas du tout une pratique sexuelle, quelle qu'elle soit. Donc, en fait, la problématique juridique de la vie de Sade, elle naît d'une prétendue cruauté dont la justice a prouvé qu'elle n'avait pas existé en réalité, et non pas du tout du fait d'abuser d'une prostituée qui est payée à l'époque pour ça et qui rentre du coup dans un système de contrat très injuste mais parfaitement banal dans la législation d'Ancien Régime.
Il y a aussi le péché de sodomie qui tout de même à l'époque est très sévèrement réprimé et puis le fait qu'il force pas seulement sexuellement les filles ou les femmes mais il les force à blasphémer. Et ça, c'est retenu contre lui.
Oui,
si je ne me trompe pas, dans la première condamnation, il y a une condamnation pour blasphème.
Alors, Gérard Massé, vous vous attardez longuement dans votre texte, hein, donc à ce qu'on sent vraiment le fil rouge qui vient guider toute votre lecture, qui est donc cet athéisme forcené, hein, ou inflexible, ou rêvé, hein, c'est selon, de Sade. Et puis, une seconde hypothèse, alors moins balayée, que vous avez évoquée rapidement, qui passe justement par sa curiosité, notamment pour les voyages de Cook, pour Bougainville. On sait qu'on a retrouvé tout ça dans sa bibliothèque. Ouais. Vous attardez sur le texte Aline et Valcourt, hein, histoire de Saint-Ville et de Léonore, des textes qui sont un peu moins connus, qui mettent en scène des lieux plus lointains, et la question du lieu est aussi cruciale, hein, vous y revenez, hein, sur le château idéal, sur justement ces lieux lointains. Alors de là à lire Sade en anthropologue, je ne sais pas. Alors vous franchissez ce
oui,
pas en tout cas.
Franchis.
Vous dites même on a tort de ne pas lire Sade par ses préoccupations anthropologiques. Et vous dites, vous évoquez Sade amateur de plaisir, Sade romancier, qui aurait fait naître un Sade anthropologue, comprendre donc on le lit mal si on ne s'en aperçoit pas.
Oui, je le pense. Alors peut-être qu'on ne pouvait pas le voir avant. Chaque lecture est une lecture qui arrive dans un contexte historique. On a déjà dit beaucoup de choses à propos de Sade. C'est pas que je voulais faire du neuf. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose de neuf. C'est plutôt un arrangement, un montage différent de ce qu'on a eu d'habitude. Et puis, un ton, peut-être. C'est-à-dire que je ne le prends pas de trop haut. J'essaie de l'écouter. Bien. Alors, quant à l'anthropologie, le mot, évidemment, peut paraître lourd ou ambitieux. Eh bien, il ne s'agit pas de l'anthropologie telle qu'on la pratique depuis Marcel Mauss. C'est pas l'anthropologie qui cherche à établir une théorie comme à l'EHESS, n'est-ce pas ? Bon, bien entendu. Mais il me semble qu'on peut parler d'anthropologie à partir du moment où quelqu'un a une préoccupation qui n'est ni anecdotique ni éphémère, mais une préoccupation vraiment très vive, très constante, de la façon dont les hommes s'arrangent pour vivre entre eux. Et pas seulement sur le plan sexuel. Alors, je ne veux pas éliminer le sexe chez Sade, évidemment, ce serait quand même...
même si vous parlez quand même un peu de l'érotisme mais... comme d'une sorte de cache-sexe.
Oui, parce que ça a empêché, je crois, assez longtemps de voir le reste, ce dont je suis en train de parler, justement. Vous voyez, on l'aperçoit moins parce que ou on refuse de le lire à cause des ébats sexuels et de la cruauté supposée, enfin supposée, dans la fiction.
Dans la fiction, elle n'est pas supposée. Elle est, hein.
Non, dans la fiction. C'est pour ça que je me reprends aussitôt. Et je voudrais bien, à ce propos, qu'on ne confonde pas, voyez, comme chez d'autres aujourd'hui.
Le marronnier du moment, oui.
Voilà, qu'on ne confonde pas tout à fait le bonhomme Sade et puis ses fictions. Et on s'indigne plus facilement de fiction que de réalité, ce qui me paraît quand même un peu gros. Donc, Sade a passé 27 années emprisonné, de toute manière, donc il n'a pas été tellement libre de ses mouvements, mais libre d'échauffer, comme il le dit, son imagination. Et il y a dans l'écriture, ça c'est un aspect qu'on n'a pas abordé, mais ce qui vaut peut-être d'être dit, il y a dans l'écriture chez lui une forme de compensation et d'excitation, au sens sexuel. Sexualité solitaire puisqu'il est enfermé. Sa femme lui fournit quelques accessoires, l'aide un peu, mais tout de même il est seul. Et son imagination romanesque, elle est d'abord tournée vers lui-même en tant que lecteur, mais en tant qu'acteur aussi. Et puisque je parle d'acteur, Sade a été toute sa vie un homme de théâtre parce qu'il a écrit des pièces. Que je n'ai pas vraiment lu, je regardais un peu.
Commencer par ça, même.
Voilà, oui. Oh, comme vous savez, le théâtre au 18e, c'est ce qui apporte la célébrité, l'argent et les actrices dans son lit. Bon, ça a duré un peu plus que après le 18e. Et donc, comme c'était le grand genre au 17e, au 18e, on continue. Et ça donne des dizaines, des centaines de tragédies que personne ne lit plus aujourd'hui. Voilà, bon. À part le Mahomet, Voltaire. Bon.
C'est peut-être la seule chose qui, au fond, qui leur a conservé l'Église catholique,
le
théâtre, par exemple.
Alors, absolument. Le rituel importe beaucoup chez lui. On voit bien qu'il ne peut pas avoir un comportement amoureux qui serait juste comme ça, en passant ou dans la banalité. Il faut qu'il organise les choses, il faut qu'il les ritualise. En effet, c'est une cérémonie. Là, vous avez raison de le rappeler.
Stéphanie Genant, est-ce qu'on peut envisager les romans de Sade comme des essais d'anthropologie ?
Oui, tout à fait. J'ai écrit une biographie de Sade il y a un an maintenant, qui est sortie chez Gallimard, dans laquelle je vends aussi, entre guillemets, le Sade analyste de l'homme, en fait. C'est ça qui l'emporte chez lui. À chaque fois même qu'il parle de sexualité, en réalité, les scènes dites pornographiques aujourd'hui sont relativement courtes, totalement inintéressante à la lecture et très vite infléchie en discussion. Donc on voit que même à l'intérieur du livre, la sexualité, elle est très brève et hop, elle inspire aussitôt des débats entre les personnages qui peuvent paraître ennuyeux aux lecteurs qui disent, chez Sade, on passe son temps à disserter. Et parce qu'en fait, c'est effectivement la réflexion qui l'intéresse beaucoup plus que la pratique. Et du coup, cette réflexion, elle interroge ce qu'est notre désir sexuel, mais au sens où la sexualité est une passion, c'est-à-dire une pulsion, on dirait quelque chose qui nous fait agir, une énergie, que ça interroge aussi dans l'ensemble de la sphère morale. Par exemple, pour lui, la politique, la passion du pouvoir est quelque chose qui touche aussi à la sexualité, au sens où il y a un désir, il y a les mêmes passions de pouvoir, de domination, de rivalité, etc. La sphère passionnelle, en fait, l'intéresse. Il y a même que ça qui l'intéresse. En tout cas, c'est ce qu'il dit dans, effectivement, l'idée sur les romans, dans les préfaces de ses romans. C'est ce que font ces personnages qui vont sans arrêt disséquer ce qu'est l'âme, tout en reconnaissant qu'il est très difficile de savoir ce que c'est qu'un homme, qui a au fond, même quand on a bien disserté des heures entières, une résistance intérieure, qu'on peut jamais savoir ce que c'est que l'âme. Ça, c'est un autre lieu commun de l'œuvre sadienne. Donc une anthropologie, mais inquiète, parce qu'elle prétend jamais trouver la clé de l'objet qu'elle examine.
Je suis arrivé à Paris, j'ai connu ce qui était la grande chaumière, c'est-à-dire c'était uniquement des étrangers, sauf un Français. D'ailleurs, on voyait très peu. Et j'étais jusqu'à vers 30 sans connaître un Français. Oui, 28, 27, 28 et encore. C'est comme un mur. Alors, on est un peu là, tout en étant comme dans un parquet ailleurs, non ? Alors, j'ai commencé par voir des Yougoslaves, parce qu'ils travaillaient ensemble à la Grande Chaumière, après des Suédois, enfin, j'ai vu sans avoir tellement de contacts. En fait, je me sentais très seul. Je ne me plaignais pas, c'était très agréable. Et puis quand j'ai connu, par ce que je faisais, je sais, j'ai connu Masson à une exposition, le jour même, j'ai connu une bonne partie de mes amis qui sont encore aujourd'hui. C'est-à-dire Masson, Bataille, Léris, Desnos, et Queneau et beaucoup d'autres. C'est pas? Et du coup, c'est comme si j'avais toujours été là. C'est pas? Au fond, même la vie avec les gens d'ici, ça a commencé autour de 28-30. C'est pas?
C'était l'épopée surréaliste, ça.
C'était déjà la fin, au fond. Moi, j'avais envie de le connaître, d'ailleurs. C'est les gens qui m'intéressaient le plus à l'époque, nettement. Et puis, j'avais fait des sculptures mobiles, des constructions en bois, enfin. J'avais exposé, d'ailleurs, déjà avec Maxence et Harp, à la galerie Saint-Pierre. Et ces Bretons et Dali qui les ont vus et qui considéraient que c'était bel et bien de la sculpture surréaliste, non ?
La voix d'Alberto Giacometti, hein, en 1963, revenant brièvement sur ces années surréalistes, hein, qui sont, alors je dis brièvement, elles sont tout aussi brèves ces années-là, hein, c'est à peu près au tournant des années 30, jusqu'en 35, au moment de la rupture, et de la rupture et du retour à la figure, ou de la rupture parce que retour à la figure, je ne sais pas exactement.
En fait, on retravaille sur cette question-là, de cette rupture qui est effectivement réelle de séparation avec les surréalistes, mais au tout début de l'émission, on a entendu le testament de Sade, et en fait, ce testament est joué par, interprété par le performeur Jean Benoît en 59 dans une expo surréaliste où Giacometti participe. Donc, il a arrêté de produire des œuvres surréalistes, mais il est toujours resté en lien avec les surréalistes.
Enfin, il participe avec des œuvres que Breton lui a demandé, que Breton a choisi.
Des œuvres qu'il a réalisées pendant cette courte période. Mais pour nous, c'est beaucoup plus diffus. En fait, cette relation au surréalisme, elle intervient encore après, sous d'autres formes, moins directes, mais il est quand même toujours lié avec les surréalistes.
Alors c'est sur cette séquence très brève et très identifiable, hein, que s'appuie l'exposition Cruel Objet du Désir, qui se tient à Paris à la Fondation Giacometti, dont vous signez le co-commissariat, Christian Allendette. Giacometti, lecteur de Sade, qui avait déjà été évoqué, je crois, dans une exposition, c'était à Zurich, en 2002, où ce lien avait été fait, mais de façon plus large, autour des surréalistes, de l'imaginaire surréaliste et de Sade. Qu'est-ce qui vous a mis ou remis sur cette piste-là? C'est en travaillant, c'est une pièce en particulier, un texte, un croquis?
Alors c'est une lettre que Giacometti écrit à André Breton, qui date de 1933, où il écrit à Breton, « Hier, Sade qui me passionne beaucoup ». Et c'est le moment où Giacometti vient de perdre son père, et on sait que...
Donc ça c'est en 33.
En 33, voilà. Et on sait qu'il a des relations très étroites avec Breton à ce moment-là, et Breton lui conseille de replonger dans la lecture de Sade. On pense que c'est la seule date vraiment précise où on a cette notion de Sade. Ensuite, ce terme revient énormément, le nom revient dans beaucoup de carnets. Il est même inscrit sur les murs de l'atelier, à côté du nom de Dali et de Buñuel. Et donc, on a essayé de creuser pour retracer à quel moment Giacometti a pu lire Sade, qu'est-ce qu'il a lu surtout. Malheureusement, on n'a pas pu trouver dans sa bibliothèque, puisqu'on a un inventaire assez exhaustif de tous les livres qui étaient dans l'atelier, et on n'a trouvé aucun livre de Sade lui-même. Par contre, on a retrouvé dans la bibliothèque toutes les parutions sur Sade qui sont diffusées dans les revues artistiques et intellectuelles de l'époque entre 1926 et 1935, et puis même encore après, puisque on sait qu'il était très lié avec Simone de Beauvoir. Et donc, il y a aussi dans l'après-guerre à la fois une deuxième vague avec Klossowski, Simone de Beauvoir et Blanchot. Et on sait que c'est des textes que Giacometti a vraiment lus, puisqu'ils sont parfois annotés ou il a dessiné dans les marges de ces livres-là.
Donc finalement, il en arrive à Sade bien plus par les commentaires qu'on en a faits que par Sade lui-même. Ça veut dire, par exemple, au début, parce qu'on sait que les premiers qu'il va rencontrer, enfin, il va d'abord commencer par rencontrer Bataille, puis Breton. Alors, on sait que, ma foi, il y a eu conflit quand même autour de Sade, entre, enfin, c'est le peu de le dire, entre Breton et Bataille, hein, Bataille reprochant à Breton de poétiser Sade d'une certaine manière et Bataille le ramenant du côté des hommes. Est-ce que Giacometti a choisi son camp? Pour ce qui est de Sade, hein, justement.
Non, je crois qu'il a jamais choisi son camp. Il rentre d'abord, effectivement, dans le mouvement surréaliste dissident par Masson et puis par Bataille. Puis ensuite, Dali voit cette œuvre qui est La boule suspendue et va demander à Giacometti de rejoindre le groupe d'André Breton. Donc, il va adhérer à ce moment-là au surréalisme. La boule suspendue va rentrer dans la collection de Breton. Et il va à chaque fois être lié avec les deux dans la même période, en fait.
Alors, ce moment-là où on commence, alors où vous, en tout cas, vous commencez à voir Sade apparaître chez Giacometti, ou dans les images, dans les formes même plutôt de Giacometti, et puis dans certains de ses textes aussi, hein, qui vont paraître dans des revues surréalistes, c'est un moment particulier, Stéphanie Genant, c'est-à-dire que c'est le moment où on va délivrer, d'une certaine façon, hein, comme le dirait Bataille, où on va délivrer Sade, donc dans les années 20, à la fin des années 20, hein, le manuscrit des 120 journées de Sodome est retrouvé à ce moment-là, et publié en français, je crois, en 29 seulement, hein, donc tardivement, après un siècle, tout le 19e siècle, qui va vraiment le mettre au tombeau, même s'il est lu clandestinement. Qu'est-ce qui, dans ces années-là, permet de délivrer ça d'une certaine façon, Stéphanie Genant? Et qu'est-ce qu'on en fait surtout? Quel est le Sade qu'on veut retenir?
Alors, vous avez raison, c'est bien une délivrance, un Sade qu'on désemprisonne d'abord, en tout cas, d'un siècle et demi presque de silence, d'occultation et d'impossible accès. Puisqu'une des raisons de l'inaccessibilité de Sade auparavant, en tout cas jusqu'en 1929, il y a deux raisons. Il y a le fait que ces éditions n'existent pas, parce que c'est un auteur interdit, donc on ne peut pas acheter des livres de Sade sur un marché officiel. Et puis le fait aussi qu'on ne connaisse pas la totalité de son corpus, c'est vrai. Or, dans les années 30, il y a un double mouvement, à la fois de découvertes, c'est vrai, de manuscrits, qui sont d'ailleurs... pour une grande part liée à un hasard. On ne sait pas pourquoi le texte des 120 journées ressort comme ça. C'est toute une fructueuse coïncidence. Mais c'est aussi le travail de chercheurs, puisque Maurice Heine, qui est le grand éditeur sadien des années 30, va, lui, trouver aussi bien d'autres textes de Sade qu'on ignorait l'existence dans les archives de la Bastille. Donc il y a une part de hasard, une part de... voilà. Et puis, donc du coup, Sade va sortir... Et il faut savoir que dans ces années-là, du coup, son exhumation, on pourrait dire, s'accompagne d'une espèce de lecture très positive de Sade, ce qui ne va pas durer tout le XXe siècle. Mais dans les années 30, Sade, et c'est pour ça que les surréalistes vont l'adouber et même y voir un auteur un peu moteur pour eux, Sade incarne la liberté, le grand émancipateur, celui qui nous libère de tous les préjugés qui nous aliènent. Et c'est vraiment celui qui nous réconcilie aussi avec le désir, celui qui nous libère de la morale bourgeoise, de la famille, enfin. Et on comprend très bien pourquoi, dans la société pesante, hein, des années 30, Sade a pu apparaître comme une espèce de bouclier libérateur. Alors, ça va se refermer ensuite contre lui, puisque c'est une lecture qui va pas s'imposer durablement. Et puis, elle a un autre effet un peu pervers, cette lecture surréaliste de Sade, c'est qu'elle va, pour le coup, projeter aussi beaucoup sur Sade des réalités qui ne sont pas forcément les siennes. Si bien qu'on va, dans les années 30, voir le Sade des surréalistes, et donc plus le surréalisme que Sade lui-même. Donc Sade va devenir, à force d'être idéalisé, si vous voulez, un miroir à projection tel qu'on va, on va perdre de vue aussi la réalité de son texte.
Par exemple, la question que vous posez, hein. Vous dites, distingue-t-on encore sa flamme initiale dans la lecture des surréalistes?
Oui, mais en même temps, ça se comprend. C'est quand l'admiration va trop loin, il y a une espèce de mythification de ça, si vous voulez, qui finit par le faire disparaître un tout petit peu autrement. Non pas dans sa textualité, parce qu'on commence à avoir accès à ces textes. Hein. Dans les années 20, Apollinaire est le premier, en 1918, à proposer une anthologie qui met non pas les œuvres intégrales de Sade, parce que pour ça, il faut attendre Jean-Jacques Pauvert et 1957, mais une première anthologie qui permet au public non amateur, au public normal, si j'ose dire, d'avoir accès à une partie de l'œuvre de Sade. Donc on va découvrir ces textes, on va ensuite les admirer, mais les surréalistes vont faire quelque chose de surréaliste avec Sade. Ils vont totalement se l'approprier, ce qui est très bien, et on comprend très bien pourquoi. Mais après, il va falloir presque libérer Sade de cette lecture, vous voyez, un peu trop appropriée, quoi. Voilà.
Est-ce que pour autant, Giacometti, lui, se situe à cette même distance? Parce que c'est toujours une affaire de distance, hein, dans la lecture de Sade, hein, vous en parlez aussi très bien d'ailleurs dans votre texte de catalogue, Stéphanie Genant, de cette question de la distance dont Sade parle lui-même. Hein. Oui. À quelle distance, alors c'est aussi une question pour Christian Allendette, se place finalement Giacometti?
Alors on voit que les œuvres effectivement de cette période évoquent beaucoup la sexualité, la cruauté, mais malgré tout, elles l'évoquent d'une manière légèrement décalée. Elles évoquent plutôt cette idée de cruauté est plutôt projetée dans le regard du spectateur, parce que l'impression première peut paraître cruelle, mais finalement, quand on regarde un peu plus en détail l'œuvre, par exemple, si on prend une œuvre comme La Fleur en danger, qui est l'évocation de la défloration et qui est la combinaison d'un arc tendu vers une fleur suspendue qui est une espèce de fleur surréaliste qui évoque aussi l'œil bataillien. Mais l'axe est légèrement décentré, qui fait que si on lançait si l'objet était mis en action, en fait, il n'atteindrait pas
cible. Parce qu'il y a une espèce de catapulte, en fait, qui a l'air d'être dans l'axe de cette fleur, voilà. Hein, mais qui, en fait, est légèrement décalée.
Voilà, et beaucoup d'œuvres jouent sur ce décalage. Une autre œuvre importante de l'époque, La Main Prise, évoque une machine de torture avec une manivelle qui, finalement, tourne dans le vide et donc n'opère pas, en fait. Il y a cette idée d'objet de torture, mais qui serait dysfonctionnel à chaque fois. Et donc, on est vraiment plutôt dans la projection du fantasme que dans la réalité d'un acte sadique. Et
ça vaut pour la boule suspendue aussi,
ça vaut sur la boule suspendue,
voilà, qui est cette boule légèrement fendue et qui effleure...
qui effleure un croissant, tranchant, mais qui est dans ce jeu à la fois du désir entre la caresse et l'incision, puisqu'on on a mis dans l'exposition cette œuvre en regard d'une scène de Buñuel et Dalí qui est dans un chien andalou avec cette scène d'un rasoir qui vient trancher un œil. Et donc on a un peu cette même sensation en regardant l'œuvre de Giacometti, mais en même temps on n'arrive jamais jusqu'à l'acte comme ça peut l'être chez Buñuel ou comme...
Ce qui finalement pourrait aussi, Stéphanie Genant, le ramener, alors par quelques détours ou acrobaties, à Sade, alors par le théâtre d'une certaine façon, et puis peut-être aussi avec cette idée du protocole, hein, ou en tout cas de l'attente ou de la menace, qui serait presque plus importante chez Sade que le moment où la pièce est jouée, d'une certaine façon.
Oui. Oui, comme d'ailleurs la sexualité n'intéresse les personnages sadiens que lorsqu'elle est fantasmée. Lorsqu'elle atteint sa réalité, elle est souvent décevante, elle est même souvent aussi mélancolique. Hein. Il n'y a pas plus désespéré que les libertins après leurs ébats. En revanche, ils disent tous que c'est beaucoup plus intéressant d'imaginer, de fantasmer. Donc ça, la sexualité sadienne, elle est très cérébrale aussi pour éviter un peu la chute un peu triste dans la chair réelle. Il n'y a rien de joyeux dans tout ça, de ce point de vue-là, je trouve. Après, ce que dit Christian, et là où ça résonne aussi avec ça, c'est que il y aurait aussi comme parallèle le fait que l'œuvre de Sade nous confronte, nous, comme peut le faire la sculpture de Giacometti, à notre propre cruauté. C'est-à-dire que toute sexualité, pour Sade, mêle en fait des désirs qui sont très ambigu, c'est-à-dire que même quand on aime et qu'on désire quelqu'un, il y a une forme de violence dans le désir qui peut bien sûr être sublimée grâce à l'amour, mais qui existe en fait. C'est-à-dire qu'il y a, vous voyez, une couche passionnelle et potentiellement cruelle qui est toujours là. Alors c'est pas forcément facile à admettre, mais c'est quelque chose que l'œuvre de Sade nous donne à lire, comme la sculpture de Giacometti peut nous le donner à voir et à sentir aussi.
C'est le moment de rappeler aussi le Sade amateur d'art, et en particulier dans Juliette. Le voyage en Italie, c'est le voyage où on visite des musées, c'est l'occasion de visiter les musées, et Sade insiste beaucoup sur la sculpture. Alors vraiment, l'hermaphrodite, les Vénus, enfin, etc., qui deviennent quasiment vivantes, et avec lesquelles même on pourrait, à la limite, s'exercer. Vous voyez ce que je veux dire par là ?
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farine.
Cette mélancolie que vous évoquez, Stéphanie Genant, on pourrait peut-être aussi y ajouter, ça vaut aussi pour Christian Allendette, hein, mais chez Giacometti, en tout cas, quelque chose qui a à faire avec l'impuissance du regardeur, qui est... en tout cas, à regarder ces sculptures et ces machines. Regardeur qui est parfois d'ailleurs voyeur et qui est représenté dans, je pense, à une sculpture,
oui,
en particulier.
Il y a plusieurs œuvres, effectivement, où la position du regardeur apparaît, notamment La femme couchée qui rêve, qui est une œuvre qui a eu plusieurs titres, dont Femme couchée avec un homme dans un lit. Et il y a cette idée à la fois de la volupté du plaisir avec ses formes d'ondulation et
la femme couchée qui rêve,
la femme
par
couchée
exemple.
Qui rêve, voilà, qui est une sorte de double vague avec transpercée par une forme phallique et puis sur laquelle est adossée une forme de cuillère qui évoque l'œil du voyeur, en fait, qu'on retrouve dans plusieurs œuvres de Giacometti.
Je voulais évoquer un entretien avec Jean Clay en 63. Où il dit, je m'imaginais blindé, tirant dans les gens à la mitrailleuse, dans les genoux pour qu'ils souffrent un peu plus, surtout les femmes, toutes les femmes des amis, je les descendais à coups de fusil, dans la rue, une manière de les posséder, et à jamais, rien là d'extraordinaire du reste, les gens mordent leurs femmes, tout le monde le fait, cela prouve assez que l'agressivité est générale, on veut les bouffer, c'est normal, pourtant chez moi c'était particulier, c'était lié à mon impuissance, je me suis toujours sentie très déficient sexuellement. Quand je suis venue à Paris en 1922, je n'ai cessé de fuir les aventures sentimentales à cause de ça. C'est aussi pour ça que j'ai toujours fréquenté de préférence les prostituées. La première femme que j'ai connue était une prostituée. Ça m'arrangeait. La notion d'amour, ce mélange équivoque et gluant de sentiments et de gestes physiques, m'avait toujours gênée. Avec elle, au moins, il était clair qu'il existait, en dehors de toute affectivité, une mécanique de l'amour. Très jeune déjà, je pensais qu'entre homme et femme, il ne pouvait y avoir qu'incompatibilité, guerre, violence. La femme ne se laissait posséder qu'à son corps défendant. L'homme la violait. Un blanc.
Alors c'est vrai qu'il faut rappeler peut-être que, quand même, à cette période, Giacometti aime beaucoup provoquer, en fait. Il y a une forme de provocation dans cette manière d'aborder la question que lui pose Jean Clair. Mais en même temps, il y a cette réalité de l'impuissance que vit Giacometti, ou en tout cas qu'il redit à plusieurs moments, qu'on voit vraiment clairement dans les œuvres. On parlait de la fleur en danger, mais beaucoup de sculptures évoquent plutôt cette difficulté de la sexualité. C'est aussi un moment où Giacometti a des relations avec des femmes extrêmement libres, en fait. C'est un jeune homme qui vient d'une famille protestante assez traditionnelle. Il découvre à Paris effectivement les bordels, comme beaucoup d'autres artistes, mais il va avoir des relations avec des femmes comme Denise ou comme Flora Maillot, qui sont des femmes qui ont déjà divorcé, qui ont déjà eu beaucoup d'amants, qui vivent de manière très librement leur sexualité. Et c'est quelque chose avec lequel il n'est pas forcément très à l'aise. Hein.
Stéphanie Genant, vous, qu'est-ce que vous pourriez repérer alors de véritablement sadien dans ce qui est présenté dans l'exposition ?
Écoutez, là, à écouter ce texte, beaucoup de choses. Sade, déjà, a lui-même un rapport extrêmement complexe à la sexualité, entre parenthèses. Hein. On ne le dit pas assez, mais en travaillant sur sa correspondance, par exemple, moi, j'ai été très étonnée par le fait que il vit sa sexualité comme quelque chose qui l'encombre. c'est pas du tout quelque chose de positif. Et donc, après toutes les années d'emprisonnement et avec les pathologies que son corps développe, et puis la métamorphose du corps qui prend du poids, etc., à 50 ans, il retrouve la liberté provisoirement et il dit « je n'ai plus de désir ». Et cette perte de désir dont il est victime en quelque sorte, hein, il dit j'ai plus du tout de désir sexuel, devient pour lui le moment de la plus grande fertilité intellectuelle ou presque. En tout cas, c'est ce qu'il dit dans ses lettres. Il dit je n'ai jamais eu autant d'idées, et il dit il y a un transfert de jouissance qui avait déjà effectivement, Gérard Massel l'a dit, opéré en prison. Hein. Mais donc Sade est quelqu'un pour qui la réalité de la sexualité est très problématique. Ça l'a toujours été, ça l'est plus encore au moment où en plus lorsqu'il dit « je quitte la sexualité, j'arrête la pratique », il découvre l'amour, le vrai. Enfin, il l'a déjà découvert avant, mais là, il écrit textuellement que l'amour n'est pas la jouissance. Ça peut être la même chose, mais ça peut aussi ne pas l'être. C'est-à-dire qu'on peut aimer sans avoir de jouissance sexuelle avec la personne qu'on aime. Alors qu'on peut avoir, dit-il, de la jouissance sexuelle sans amour. Du coup, il écrit beaucoup de choses très intéressantes qui montrent que pour lui, les choses sont aussi très très lucides et très claires. Donc, c'est aussi ça qui, je trouve, le rend d'autant plus intéressant. C'est la grande époque où il va écrire tous ses textes pornographiques. Vous voyez, donc la sexualité, elle sort sous la plume au moment où elle disparaît de la vie aussi. Alors qu'il écrit quasiment, à part les 120 journées, aucun texte pornographique en prison. Donc c'est pas du tout ce qu'on croit normalement, on dit ça, pas du tout. La sexualité, elle naît dans l'œuvre quand elle disparaît dans la vie. Et puis ça, je vous disais, nous rappelle aussi que cette sexualité, elle est violente, elle l'est structurellement, si vous voulez, elle l'est techniquement. Et ça, il insiste beaucoup là-dessus. Il y a, c'est vrai, une réalité physiologique qui potentiellement peut transformer l'acte sexuel en une agression, en une pénétration, quelque chose de problématique pour le personnage féminin. Et du coup, Sade le dit, nous le donne à voir. Vous voyez ça, je trouve ça vraiment très intéressant et ça nous rappelle que ça existe, vous voyez, structurellement, voilà.
Ça existe structurellement et en plus dans les deux sens, parce que les situations peuvent se retourner. Lui-même a besoin d'être violenté, enfin d'être fouetté en tout cas. Et il me semble, si je me trompe, vous me le direz, mais que ce qui effraie certaines filles qui vont avec lui, c'est précisément d'avoir à exercer la violence sur lui.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Ça, c'est pour ça que je vous dis que lui-même a un rapport à la sexualité tout sauf euphorique. Enfin, c'est un euphémisme de le dire. Hein. C'est une sexualité très cérébrale, très scénarisée, et dont il n'aspire qu'à une chose, qu'elle le libère, en fait. Vous voyez, et ce qui arrive dans sa vie, comme un grand moment de soulagement. C'est pas ce à quoi on s'attend, a priori, en lisant ça, vous voyez.
Et il semble qu'il n'y ait pas de jouissance sans commotion. Enfin, donc, une jouissance qui, au fond, est très difficile. C'est un but difficile à atteindre.
Exactement, et douloureuse. En plus, il y a toute une série de problèmes physiologiques sur lesquels Sade n'a aucune pudeur, mais en même temps, c'est des correspondances qui ne sont pas censées être lues. Hein. Donc nous, aujourd'hui, on découvre des détails physiques quand même. Il a toute une série de maladies qui rendent sa jouissance un supplice. Et donc lui, du coup, il s'interdit de jouir parce qu'il souffre trop. Alors ça tient aussi à des problèmes physiques, techniques, mais ça structure aussi après son imaginaire. On n'est jamais plus heureux que lorsqu'on est juste avant. Vous voyez, surtout pas après, et surtout pas pendant non plus.
Oui, ça joue un rôle aussi, la satisfaction, me semble-t-il, c'est qu'il n'y a pas de société heureuse avec des frustrés. Et donc il y a un moment où, politiquement, Sade exprime l'idée qu'il faut qu'il y ait des lupanards, il faut que les gens s'adonnent au plaisir sexuel, parce que sinon, c'est politiquement que la violence s'exerce.
De revenir à Giacometti, qu'est-ce qu'il advient, Christian Allendette, au fond, de Giacometti, lecteur de Sade, une fois qu'il en retourne à la figure, qu'il en retourne au modèle?
Alors, on voit qu'effectivement, quand il revient au modèle, il continue à lire Sade, en fait. Mais alors, il y a cet usage des canifs, en fait, son rapport à la sculpture est assez violent, en fait, son processus de travail, la manière dont il utilise les canifs pour littéralement taillader parfois les sculptures. On trouve ça déjà même dans les témoignages de son frère quand il est enfant, cette manière de pointer le compas vers l'œil de son frère pour mesurer, en fait, pour essayer de faire la tête. Donc il y a ce rapport, cette bataille, en fait, qui mène avec la matière pour former les femmes de ces figures de féminines d'après-guerre.
Ce serait une forme de résolution sadienne, enfin plastique.
Bah, disons une manière symbolique peut-être d'exprimer une forme de rapport violent sans qu'il soit sexuel.
Christian Allendette, Stéphanie Genon, Gérard Massé, merci à tous les trois. C'est la fin de cette émission, ou presque, hein, puisque je vous laisse la terminer entre vous et sans moi. Alors bon après-midi à vous, à toutes et à tous.
Madame Genon, oui. C'est Gérard Massé là, qui vous parle. Oui. Est-ce que vous avez connu les héritiers de Saad?
Par mail, je les ai... Oui. On a échangé beaucoup parce que eux, ils sont très sensibles à la démarche qui est aussi la vôtre. Hein. J'ai entendu, j'ai lu juste le début de votre livre. Où je sois honnête, je l'ai acheté.
Oui, oui, et je vous en prie.
Non, mais je vous ai lu aussi juste le début avec beaucoup d'intérêt parce qu'ils sont eux, ces héritiers, très sensibles à tous ceux qui essayent de restaurer ça dans l'humanité, la nôtre, et non
oui.
pas de.
Alors, enfin, voilà, je vous dis ça parce que il se trouve que mon livre m'a valu de connaître les héritiers qui sont proches d'une maison que j'ai à la campagne, ils sont tous juste à côté. Et donc c'était un moment plutôt heureux. Mais c'est aussi pour ajouter que la famille a joué un grand rôle au XXe siècle, me semble-t-il, dans la redécouverte, parce que Xavier de Sade, le père des héritiers actuels, et son épouse ont ouvert vraiment les archives aux chercheurs. Et il n'y a plus à la fois de complexe, de gêne ou de... Est-ce que vous pouvez le confirmer?
Ah oui, tout à fait, je suis entièrement d'accord. Et en plus, c'est une famille qui est aussi légitimement sensible à la normalisation, si j'ose dire, de l'auteur Sade. Alors, il a fallu les surréalistes et le moment de Giacometti, ça c'est très fort quand même, hein. Enfin, Christian il a fallu cette sortie quand même de l'ombre pour... voilà.
C'est justement quelqu'un dont on n'a pas parlé, peut-être qui est assez... importante à ce moment-là, c'est Marie-Laure de Noailles qui est une descendante en fait du Marquis de Sade et qui est à la fois une collectionneuse de Giacometti, une mécène des surréalistes. C'est elle qui va faire avec le vicomte de Noailles faire acheter le manuscrit par Maurice Hein et qui va l'aider ensuite à la diffusion et à l'édition.
Oui, je pense que Sade est souvent sauvé par les femmes en fait, paradoxalement. Si on prend Beauvoir, qui écrit des textes magnifiques, Annie Lebrun dans les années 80, qui écrit une œuvre aussi colossale sur Sade, vous voyez, là, cette collectionneuse, elle nous montre bien que cette œuvre, elle fait une place très positive, sans quoi les femmes ne l'auraient pas accueillie comme ça. Hein, c'est pas forcément ce qui s'impose à la première lecture.
Je suis heureux de vous l'entendre dire, oui. D'autant que, de les 15 dernières années, par exemple, on n'a pas dit, parce qu'on veut pas tout dire, mais le rôle extraordinaire de Madame Quesnay à ses côtés.
Oui, je suis d'accord. Et puis, mais il y a même sa première femme, René.
Oui,
Sade a toujours été très aimée par les femmes.
Sans compter la belle-sœur.
Oui, c'est ça. Mais moi, je dis s'il avait été un si horrible personnage, il n'y aurait pas autant de femmes. Il y en aurait peut-être une qui aurait pu s'égarer, mais pas trois ou quatre qu'il aurait aimé à ce moment-là. Donc, c'est déjà le meilleur indice de son humanité. Ça, j'en suis sûre.
C'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Merci à Thierry Beauchamp pour la préparation, à Nadège Antonini pour la technique et à François Connac pour la réalisation. Vous trouverez toutes les actualités de nos invités sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster et partager sur franceculture.fr.